Bienvenue dans le podcast de My Green Intérieur. Ici, on aborde des solutions concrètes et durables pour vous permettre de créer des intérieurs responsables. Que vous soyez architecte d'intérieur, décorateur, designer ou tout simplement à la recherche de solutions inspirantes pour votre home sweet home, vous êtes au bon endroit. Je suis Coralie, moi-même décoratrice et architecte d'intérieur depuis 10 ans. Amoureuse de la nature et des grands espaces, je rêve d'un monde où la consommation devient intelligente et la créativité au service de la planète. Vous êtes prêts à faire rimer beau avec durable ? C'est parti pour un nouvel épisode ! Hello les Greeners ! Aujourd'hui dans cet épisode, je reçois Fabien. Alors Fabien n'est ni fabricant de mobilier, ni architecte d'intérieur. À vrai dire, Fabien n'a pas vraiment de lien direct avec notre cœur de métier, mais vous allez vite comprendre qu'il a beaucoup de choses intéressantes à nous partager. On va évoquer avec lui un aspect plus psychologique, le passage à l'acte, celui qui consiste à acheter responsable, à accepter l'éco-conception et donc, pour les plus réfractaires, à changer son prisme. Comment aider nos clients à changer leur regard sur les vieilles habitudes pas très écolo? On voit ça tout de suite avec Fabien. Bonjour Fabien et bienvenue dans le podcast de My Green Intérieur. Comment vas-tu?
Eh bien, bonjour Coralie, bonjour à tous. Ça va, très bien. Et toi?
Ça va super, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs s'il te plaît?
Bien sûr, Fabien Lopez, cofondateur de MUSH. MUSH c'est un mouvement qui vise à unir et aider 1 milliard de personnes pour qu'on stabilise notre climat et qu'on restaure notre biodiversité. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On a une plateforme. Cette plateforme, elle rassemble des contenus, des solutions et plein de personnes. Donc, il y a un réseau social, une future marketplace et une plateforme de plein de contenus. Pour aider chacun à trouver tout ce dont il a besoin quand on parle d'action sur les enjeux environnementaux. Et cette plateforme, on la développe avec les communautés concrètes. On a 6 rôles dans lesquels chaque personne peut s'investir, peut contribuer à la plateforme ou alors à l'animation des communautés, à l'accueil des autres. Et on a créé aussi un petit atelier pour donner un outil supplémentaire en plus de toutes les fresques et tous les ateliers qui existent pour réellement faire prendre conscience à ceux qui nous entourent de la gravité et de l'urgence de la situation. Cet atelier s'appelle Notre Tour, et en gros on illustre avec une tour de Capla le monde tel qu'il était de 1850 jusqu'à aujourd'hui. Et on se rend bien compte que l'évolution est complètement folle, et que l'économie est en train un petit peu de détruire ce qui la soutient, le climat, la biodiversité justement.
Oui, complètement. Alors j'imagine que tout comme nous en archi déco d'intérieur, tu rencontres parfois peut-être des clients un petit peu réfractaires qui comprennent pas forcément ou qui restent un petit peu obtus par rapport aux informations qui sont données. Je pense par exemple au rapport du GIEC, etc. On en parle beaucoup en ce moment. Mm-hmm. Comment est-ce que tu expliques cela? Comment est-ce que tu expliques le fait qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui soient réfractaires à ces informations-là et surtout au changement?
Nous sommes une espèce sociale, conformiste. Quand tout le monde autour de nous pense B, malgré que nous on pense A, on va se conformer à B. Aujourd'hui, on est majoritairement dans les pays les plus développés, conformés à un modèle de société qui est pas tenable. On a hérité de modes de vie qui le sont pas. On est bombardé de réseaux sociaux et de médias qui nous montrent que le pouvoir d'achat et le confort matériel est une manière de devenir heureux. Ça contribue. Alors, il faut qu'on ait à manger, il faut qu'on ait un toit. Mais par contre, beaucoup de gens pensent qu'on a été bassinés dans des imaginaires qui nous présentent la réussite comme étant matérielle et pas étant faite de liens humains. Et pourtant, on a toutes les études qui montrent que c'est le lien humain qui rend les gens heureux. Et que au-delà d'un certain niveau de vie, en fait, ça marche pas autant que ce qu'on pense. Donc, je dirais que c'est avant tout une question de culture collective. Si individuellement on a du mal, parce que justement on se réfère toujours à la culture collective, et parce que souvent, on a un mode de vie, on a tel ou tel type de consommation, et en fait quand on nous demande de changer, quelque part, on nous demande d'admettre, d'accepter que ce qu'on a fait pendant tout le reste de notre vie est passé, est faux ou mauvais ou dangereux, ou etc. etc. Ça, c'est très très difficile à accepter. Il y a un super exemple historique sur les médecins, où, alors je sais plus trop en quelle année, mais j'avais entendu cette anecdote, j'essaie de la raconter, mais elle est un peu floue. En gros, c'est, à l'époque, il y avait pas mal de médecins qui, le matin, faisaient des opérations, ils faisaient médecins légistes. Donc ils étaient au contact de personnes décédées, ils essayaient de les diagnostiquer, et l'après-midi, ils allaient faire des accouchements. Et en fait, entre les deux, bah, ils ne se lavaient pas les mains, ils gardaient le même tablier, puisque en fait, le tablier plein de sang à l'époque, alors je ne m'en rappelle plus, hein, ça devait être il y a 200-300 ans, le tablier plein de sang était une preuve d'efficacité du médecin. S'il n'avait pas de sang, ça veut dire que personne le sollicitait. Donc c'était une preuve de compétence, le sang sur le tablier. Et du coup, bah, ils se sont rendus compte que un jour, une personne s'est lavé les mains entre les deux, a changé de tablier. Et puis, évidemment, il y a eu moins de morts chez les bébés, chez les nourrissons. Bon, cette personne s'est fait prendre pour un fou par tous les autres médecins qui avaient l'habitude de faire ça et qui se conformaient à l'avis de leurs patients, qui jugeaient ils étaient compétents s'ils étaient dégueulasses. En gros. Et donc, il a fallu 30 ans pour que ça change, ce truc-là. Parce qu'à l'époque, pas autant de science, pas autant de médecine vraiment fiable. C'était beaucoup, beaucoup de jugés. Et donc, ça illustre très bien ce mécanisme, que tant que les gens ont une certaine manière de faire, et quand on leur prouve que ça les mettrait moins en danger s'ils faisaient autrement, on reste conformé à soit au groupe, soit à notre passé pour éviter de tomber en dépression. Des fois, en fait, le déni, c'est ça. Hein. C'est un mécanisme pour éviter la dépression. Parce que c'est pas agréable. Mais, souvent, c'est utile pour passer à autre chose et changer.
Alors, on est quand même aujourd'hui en 2023. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On a tous conscientisé le problème et les enjeux climatiques. Alors, je me répète peut-être un petit peu avec cette question, mais pourquoi encore beaucoup de gens freinent des cas de fer quand on leur parle de passer à l'acte, de changer leur mode de vie, de consommation? Est-ce qu'il y a des freins majeurs que tu saurais nous donner? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est peut-être aussi par manque de compétences dans certains domaines? Comment ça s'explique concrètement?
Eh bien, quand vous avez un problème de santé, vous allez voir le médecin. Quand vous avez un problème de poids, c'est un peu pareil, presque le médecin, vous allez voir un nutritionniste. Vous avez un problème psychologique, vous allez voir un psychologue. Quand vous avez un problème d'effondrement de civilisation, vous allez voir qui? Personne. Personne est préparé à un truc aussi systémique que ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il n'y a aucun parcours scolaire avant 18 ans et même après, beaucoup, pas beaucoup, qui permette d'aborder de manière holistique, systémique, le problème qui nous fait face. Parce que c'est pas juste une question de climat et de CO2, c'est une question d'azote, c'est une question de phosphore, c'est une question d'aérosol, c'est une question de toutes les limites planétaires, je vais pas les citer. Et tout ça, c'est lié à l'ensemble des activités humaines. Et un individu, aujourd'hui, n'est pas formé à comprendre l'ensemble des activités humaines, les interactions sur l'environnement et toutes les sphères qu'il existe, la biosphère, etc. Donc en fait, déjà, on n'est pas formé à comprendre le monde dans lequel on habite. Deuxièmement, j'en réfère à ce que je disais tout à l'heure, il y a le conformisme. On n'est pas issu de culture qui s'en préoccupe. Donc évidemment que c'est compliqué de s'en préoccuper en premier, et que s'en préoccuper, ça revient à devenir, quelque part, le bobo de la bande ou l'écolo de la bande, et souvent, c'est jugé négativement, et du coup, il y a du rejet. Et ça, l'appartenance au groupe, le rejet du groupe, est un signal de vie ou de mort pour un être humain sur les 300 dernières milliers d'années. Donc évidemment qu'aujourd'hui, ça fait quelques centaines d'années qu'on est un peu plus dans le confort, c'est beaucoup plus compliqué de changer notre identité face au groupe, parce que en fait, ça a toujours été un mécanisme qui nous a permis de survivre individuellement. On est les descendants de ceux qui se sont conformés aux pratiques culturelles des groupes qui les ont protégés, avec qui ils ont pu coopérer. Donc on a tous cette habitude et cette manière-là de fonctionner qui est complètement inconsciente, sous-jacente à tout ce qu'on fait. Mais le sentiment d'appartenance et le besoin d'appartenance est clé et aussi un mécanisme qui freine. Et puis le fait de laisser qui on était pour devenir qui on peut être, ça demande plus d'efforts que de rester dans notre confort.
Je comprends. Alors, on va revenir un petit peu à notre sujet et de manière un peu plus positive aussi.
Ah oui, concrètement, il y a plein de choses à faire.
Alors, nous, en tant qu'archidécorateurs, est-ce qu'on peut se porter un peu garant, entre guillemets, de cette bonne communication? Est-ce qu'il s'agit de trouver les bons arguments? Et si oui, quels sont-ils pour rallier, entre guillemets, nos clients à cette cause-là et venir un petit peu avec nos bâtons de pèlerin en tant que formateur, prescripteur, finalement?
C'est toi-même que tu poses ça. Il y a les arguments, mais avant les arguments, il y a l'approche. Si on y va au clash, au conflit, ça ne marchera jamais. Ou en tout cas, ça va créer de la réactance quand les gens vont protéger ce qu'ils pensent, malgré que ce qu'ils pensent n'est peut-être pas adapté. Donc déjà, la démarche, c'est l'empathie. Y a un super bouquin qui s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux » de Chris Voss, qui m'a complètement fait changer de manière de penser sur plein de sujets. En fait, c'est un bouquin qui aborde la négociation, mais la négociation moderne, plus celle où on dit « Ok, tu veux 100, moi je veux 50, et ben on coupe la poire en deux, 75 chacun a fait un effort. » En fait, ça, c'est du raisonnement mathématique, c'est ce qu'on a enseigné dans toutes les universités de commerce depuis 70-80 ans. Bon, à la base de la négociation, c'est pas ça le plus puissant. C'est les enfants qui savent le mieux négocier. Pourquoi est-ce qu'ils savent le mieux négocier? Parce qu'ils utilisent les émotions et pas la raison. Et on s'est trompé pendant 70 ans en pensant que c'était la raison qui était la meilleure manière de négocier. Négocier, ça veut dire arriver à trouver un terrain d'entente entre deux personnes et à ce que chaque personne ait gagné quelque chose dans l'échange.
Et ne repart pas frustré, finalement.
Ouais, c'est ça. Et ça, dans ce bouquin, justement, il aborde le fait que tout est à prendre sous le prisme de l'intelligence émotionnelle. Quand on se met dans les choses de la personne qui est en face, quand on essaie sincèrement et sans jugement de la comprendre, de comprendre pourquoi elle pense ce qu'elle pense aujourd'hui, de comprendre pourquoi elle consomme ce qu'elle consomme aujourd'hui, et qu'on essaie de comprendre ce qui compte vraiment pour la personne, ses enfants, en général c'est souvent la famille, les choses, pas tout le temps, hein, mais très souvent, et ben on se retrouve à créer un vrai lien humain, et à partir de là tout est possible. Tant qu'il n'y a pas de lien humain, c'est très 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 difficile de faire bouger qui que ce soit de son mode de vie, de ses comportements, de sa manière de penser. Parce que c'est comme ça qu'on a évolué. Donc, le lien humain, l'inspiration, le mimétisme, la capacité à se projeter dans l'autre, se crée quand on a eu cette phase-là de compréhension de l'autre sincère et d'intelligence émotionnelle. Et puis une fois qu'on a commencé à comprendre ce qui est cher pour l'autre, on peut trouver d'autres manières de l'aborder que seulement couper le truc qu'on voulait se partager. On peut lui proposer d'autres choses que ce qu'on allait se partager, quand on comprend vraiment ses besoins. Et donc, par rapport aux enjeux environnementaux, par rapport à votre métier, quand on comprend que la personne elle veut se sentir mieux dans sa maison, quand on comprend que c'est encore plus large que le métier de designer d'intérieur, c'est la personne, en général, c'est son confort, ses proches. Voilà, c'est pour ça qu'on se lève le matin, c'est pour être en sécurité, mettre en sécurité les gens qu'on aime. À partir du moment où on clarifie ça, et qu'on propose des choses qui vont dans ce sens, ça va déjà libérer pas mal de choses quand on parle de récupération, ou d'upcycling, de bois, enfin. Quand on explique le lien entre les impacts de nos achats et ce qui compte vraiment pour la personne, ses enfants, évidemment. Ça peut aussi être un... En fait, d'abord, il faut se connecter. Et ensuite, une fois qu'on s'est connecté, on peut corriger. Connect before correct. Ça, c'est un truc qu'on sort tout le temps à Meuch, parce que c'est essentiel. Et donc, une fois qu'on explique que le dérèglement climatique, donc le CO2 qu'on émet, donc les matériaux qu'on va utiliser, et qu'on va remplacer toutes les émissions de CO2, je prends que le CO2, mais il y en a plein d'autres, hein, des impacts, affecte le climat qui va nourrir nos enfants, et pour l'instant c'est bien parti pour que ça aille très 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 droit dans le mur, ça fait un petit peu réfléchir, et ça met la personne face à ses propres... face à elle, en fait, c'est ça la clé. On ne peut pas imposer à quelqu'un de changer son mode d'alimentation, changer son mode de décoration, si en fonction des enjeux environnementaux, si la personne n'a pas elle-même fait le lien avec ce qui compte pour elle. Et c'est tout le sujet. C'est vraiment tout le sujet.
Donc prendre le temps finalement de questionner, de rentrer en profondeur dans ce qui est important pour nos clients. Alors
Totalement.
je fais le rapprochement parce que là tu parles de manière assez large de la préservation de la planète pour ses enfants. Mais de manière très directe, nous, on parle souvent de santé quand on parle de COV dans la décoration et l'ameublement. C'est-à-dire que...
Composés organiques volatiles.
Voilà, exactement. Ouais. Un meuble neuf versus un meuble de seconde main, par exemple, qui aura déjà dégagé depuis longtemps ses COV et qui ne pourra plus en pâtir auprès de cette famille, de ses enfants, parce qu'il sera devenu sain avec le temps. Là, il y a déjà un enjeu à court terme pour faire attention à l'impact direct sur la santé des enfants du foyer. Donc finalement, c'est un petit peu une sorte de communication à double tranchant, enfin plutôt devrais-je dire à double perspective. Au premier plan, il y a la santé pour l'instant T, à court terme, avec ses COV. Alors je parle de mobilier, mais on en a un petit peu partout, hein, les colles, les solvants, les tissus. C'est faire attention aux matériaux directement liés au projet, quand on va être archi ou déco sur un projet comme celui-ci, et de manière plus large, faire comprendre en effet aux clients que, bah, au-delà de ça, à court terme, c'est quand vous serez plus là, entre guillemets, dans le discours, c'est de dire, bah, quand vos enfants seront grands, laissez-leur aussi une planète qui pourra les nourrir.
C'est ça, et après, c'est très difficile d'aborder ce genre de sujet parce que personne ne nous y prépare non plus. Et donc voilà, l'approche, pour moi, elle est super... Enfin, c'est essentiel de mettre de l'empathie le plus possible. On n'est pas là pour se juger, on est là pour avancer ensemble. Si on n'avance pas ensemble, on n'y arrivera pas. Donc, avant ça, il faut créer du lien. Une fois qu'on a créé le lien, on peut aborder les sujets qui fâchent, même pas les aborder en mode frontal.
En mode bulldozer, oui.
Ouais, d'y aller en faisant toujours le lien avec ce qui compte vraiment pour la personne en face. Et ça, c'est jamais du tac au tac. Quelqu'un ne se remet jamais en question totalement d'un coup parce qu'on a fait cette attitude-là. C'est quelque chose qui prend du temps.
Est-ce que, selon toi, c'est le bon chemin que de vouloir changer justement le spectre de nos clients, à notre échelle en tout cas ? Est-ce qu'on est légitime, quand on n'est pas parfait, de vouloir changer ce spectre-là pour conditionner nos clients face à nos valeurs ?
Vous êtes conditionné, un mot un peu fort, je dirais aider.
Oui, ok.
Et c'est pas vos valeurs, en fait, on a tous... oui, on a des valeurs différentes, mais au fond, on sait très bien qu'il y a des choses qui nous fédèrent. Et le fait de la paix, ça nous fédère, par exemple. J'ai pas envie de vivre des guerres, à mon avis, vos clients non plus. Donc, si on se bouge pas violemment, c'est le risque, ça fait partie du lot. Et bon, alors on n'a pas envie, donc faisons en sorte que ça n'arrive pas, ou le moins possible. Et du coup, par rapport à ta question de est-ce qu'il faut être légitime, etc. On est vivant, on vit sur cette planète, on consomme sur cette planète, tous. Il n'y a personne qui est parfait. À part, peut-être, ceux qui se rapprochent le plus de la perfection, c'est ceux qui vivent dans des zones dévastées et qui vont les régénérer et qui vont passer leur vie à reforester, replanter, restaurer les écosystèmes. Il n'y en a pas beaucoup. À partir du moment où on n'est pas dans ce cas-là, on est encore moins parfait qu'eux. Et la grande question, c'est pas tant la légitimité. Moi, je pars du principe que la légitimité, ça se prend. Faut pas l'attendre d'autres personnes. Et que si on l'attend d'autres personnes, en fait, on va perdre du temps, on va se tromper. Parce que quand il s'agit d'enjeux environnementaux, comme j'expliquais tout à l'heure, personne n'est préparé à ce qui nous attend et comment on doit faire. Donc si on s'y met pas avant les autres, et qu'on monte pas un peu le chemin, on perd du temps, on fait perdre du temps à la fois à soi-même et à la fois au groupe qu'on essaye d'aider. Donc la question de la légitimité est très très souvent une grosse problématique, le syndrome de l'imposteur, comment je peux parler de ces sujets si je mange encore de la viande, si j'ai encore une bagnole, etc. Mais en fait, tout ça, c'est je pense, un énorme frein qu'on s'inflige à l'heure où on devrait faire tout ce qu'on peut pour avancer et pour aider les autres autour de nous à réaliser qu'ils sont aussi en danger et qu'on doit s'activer fort. Que la légitimité, pour moi, est un sujet, et c'est un sujet qui est, c'est une impasse. Et souvent, énormément de gens qui se divisent sur leur mode de vie, au lieu de, donc sur le comment est-ce qu'on vit, Et il n'y a pas que le mode de vie, il y a aussi la vie pro, il y a aussi la manière dont on aide les autres. En fait, il y a plein d'autres formes d'action que seulement réduire son empreinte carbone. Mmh. Et souvent, bah, du coup, on se fait critiquer sur notre empreinte carbone sans qu'on nous demande, en fait, qu'est-ce qu'on en fait cette empreinte carbone? Parce que si, oui, je vais faire un road trip où je vais à chaque point surconsommer, bah, mon road trip et ma consommation, elles ont une empreinte. Ma voiture, je m'en suis servi. Par contre, si je vais me servir de ma voiture pour faire des ateliers d'automne, secouer des personnes et les aider à saisir les ordres de grandeur, leur proposer des solutions, les mettre en action, et que dans le reste de leur vie, j'aurai contribué à les mettre en action, bah, je vais la prendre, cette voiture. Même si je vais essayer de prendre d'autres modes. Une même empreinte, plein d'effets culturels, sociaux, complètement différents en fonction de comment on s'en sert. Ça, nous, à Mush, on appelle ça le rayonnement. Le rayonnement, c'est toute l'influence qu'un individu, une organisation peut mettre en place autour d'elle pour aider les gens à s'activer sur ces enjeux-là.
Donc finalement, alors je vais récupérer la perche que tu m'as tendue sur l'atelier d'automne, mais yes. Juste avant, je conclurai par dire que en tant que prescripteurs, nous, les architectes d'intérieur décorateurs, on a quand même cette force finalement de pouvoir changer les choses à notre échelle, dans notre métier, sur les modes de consommation.
Absolument.
Pour toi, si je résume de cette façon.
Absolument, et il y a énormément de... Tous les métiers doivent maintenant se biosourcer. On doit retourner vers du bois, vers des tissus naturels. On doit retourner vers toutes les substances, les matériaux qui viennent du vivant, en étant le plus respectueux possible. Dans la construction, dans l'intérieur, dans tous les domaines, en fait. On doit imiter le vivant et s'en servir. Et donc, l'archi d'intérieur a un immense rôle à jouer et est au contact d'énormément de publics. Et quand je parlais de rayonnement tout à l'heure, c'est sur tous les publics autour de vous que vous pouvez aussi influer. Et pas seulement sur les chantiers, mais aussi sur la manière de voir les choses des personnes que vous comptez, avec qui vous parlez. Et c'est super important de tendre la main, en fait. Proposer des solutions, proposer des contenus, proposer de l'aide, tout simplement.
Ok, top. Alors, on s'est connus tous les deux grâce à l'atelier d'automne,
ouais.
Mais ça ne parle pas forcément à tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement?
Bien sûr. L'atelier d'automne, c'est un atelier qui a été créé par François Laugier et Pierre-Alix Lioret. C'était il y a un peu plus de 3 ans, en fait. Ils étaient animateurs de la Fresque du Climat. La Fresque du Climat est le premier atelier, on va dire, grand public, qui a percé sur les enjeux environnementaux, créé par Cédric Riegenbach. Et donc, l'atelier d'automne, en fait, c'est François et Pierre-Alix se sont dit, mais attends, après une fresque du climat, on s'est pris une claque, ok, on a compris comment ça fonctionne, le dérèglement climatique, tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ils sont partis de là en ayant cette intuition qu'il fallait aider les gens à se projeter jusqu'en 2050. C'est souvent cette date-là qu'on utilise pour faire des projections sur les modèles climatiques, sur les trajectoires économiques, etc. Et ils se sont dit, ok, on va essayer de faire une simulation dans laquelle les gens vont pouvoir se projeter dans leur réduction de CO2, d'émissions de CO2, sur les 30 prochaines années. Donc ils ont fait ça. C'est un outil qui, du coup, maintenant, est largement commercialisé. Il y a plus de 30 000 personnes, je crois, qui ont fait l'atelier. À peu près 2500, 3000 animateurs, 200, 300 pros, je crois. C'est en train de grandir. Et cet atelier permet justement, en 8 tours, c'est un jeu, on a une simulation numérique dans laquelle on peut faire des choix. Il y a 4 tours individuels et 4 tours collectifs. Pendant les tours individuels, on se dit, ok, il y a plusieurs cartes qui nous sont proposées. Et on peut se dire, ok, je vais réduire la viande, je vais réduire le transport, etc. Et donc, ces tours collectifs, on se met en accord avec toute l'équipe dans laquelle on est pendant l'atelier pour décider d'investissement à l'échelle de la France pour décarboner l'économie. Et en fait, entre chaque tour, individuel et collectif, et ben, on se retrouve avec un tableau de bord qui nous montre l'effet de nos choix sur les émissions de CO2 à la fois personnelles, donc on voit notre courbe qui descend, etc., et aussi collective à l'échelle de la France. Et donc ça permet au fur et à mesure de se projeter, de se dire ok, peut-être que je suis pas prêt maintenant en 2023, aujourd'hui, à faire ça comme action, réduire l'avion, changer de maison, etc. Mais en fait, peut-être que je le serai dans 4, 6, 8, 10 ans, et que ce sera possible à ce moment-là. Et ça permet de débloquer énormément de verrous psychologiques et projeter les gens dans l'action tout en étant ludique et en donnant beaucoup d'espoir, parce qu'à l'avance, à la fin, très souvent, on y arrive proche de ces 2 tonnes de CO2 par an et par personne,
qui, ah oui, tout à fait,
qui sont exigées par les accords de Paris. Donc ça donne beaucoup d'espoir, cet atelier.
Complètement, je valide en effet pour l'avoir pratiqué. C'est vrai que j'étais arrivée à l'atelier un petit peu sceptique en me disant, mince, je fais déjà des actions au quotidien à titre personnel dans mon job. Comment, depuis mes 9 ou 10 tonnes, je vais réussir à 2 tonnes, c'est quand même un gap énorme, sans avoir l'impression d'arrêter de vivre finalement.
Ouais.
Et au final, ces 3 heures sont passées, mais alors crème, j'ai pas vu le temps passer, je me suis beaucoup amusée. Et surtout, j'ai réussi à atteindre cet objectif de 2 tonnes à 2050 avec des actions concrètes qui me sont données, qui ne me paraissent pas complètement impossibles à mettre en place. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de voir que les actions sont vraiment à la portée de tous.
Mmh.
Et je recommande vivement. Donc si tu peux nous donner peut-être le lien ou la façon dont il faut procéder, les gens qui nous écoutent veulent suivre cet atelier, ce serait chouette.
Eh bien, vous allez sur le site de 2 tonnes, hein, www.2tonnes.org, et là-dessus, il y a plein de sessions qui sont proposées. Il y a plein d'autres ateliers de 2 tonnes, mais on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui. Il y a vraiment un foisonnement en France, et on est vraiment hyper chanceux en France. On a beaucoup, beaucoup de solutions qui sont en train d'émerger et d'aller toucher du grand public. Nous, à Mush, on est au sein de plein de rassemblements d'acteurs de tous les milieux qui sont en train de se fédérer, et je pense que les prochaines années vont être incroyable.
Top. En tout cas, je te le souhaite pour Mush, je nous le souhaite pour la planète. Et j'espère que tu arriveras à continuer de communiquer auprès de ces personnes pour vraiment changer les choses à ton échelle, nous à la nôtre, et de continuer de faire notre part de colibri dans ce monde. Voilà.
Ah c'est tout à fait, tout le monde. On est tous sur le même bateau. Et maintenant, c'est la vitesse à laquelle on coopère pour réparer le bateau qui compte.
C'est ça.
Et l'union fait la force. Donc, unissons-nous.
C'est ça. Merci en tout cas, Fabien. Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci pour ton intervention et au plaisir d'échanger à nouveau avec toi prochainement.
Merci, à très bientôt. Oui, à très bientôt. Bonne journée à tout le monde.
Voilà les Greeners. C'était Fabien Lopez de Mush. J'espère que cet épisode vous a inspiré pour une meilleure approche avec vos clients. Je résume les termes de Fabien. Écoute, empathie, bienveillance et compréhension sont finalement les maîtres mots pour une bonne communication et pouvoir aider nos clients, mais aussi nos proches, à changer de regard et de mode de consommation pour un avenir plus vert. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter l'épisode sur Apple Podcasts. Je vous remercie et à très bientôt.